cette année-là, il naît de Pologne.
Trop les jeunes, non, ils ne pouvaient pas nous voir non plus. Hein. C'est un peu là qu'il nous a fait tout ça.
Moi, mes parents, ils venaient du Nord. Qu'est-ce qu'on appelait les Camberlots.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergem.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Et surtout les Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
On marchait à genoux, on marchait à quatre pattes.
Et 4 fois 5 ans, il fallait un mineur.
Moi, je suis venue en 1930.
8000 ouvriers pour faire les minages de betteraves.
Travailler le nez. Le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. C'est pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Puis on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM aujourd'hui tente de répondre à la question « Qu'est-ce que c'est faire les betteraves entre 1920 et 1955, date à laquelle l'évolution technique puis génétique transformera profondément ce travail jusqu'à le supprimer.
Le travail nécessaire à la culture betteravière dans des conditions climatiques normales s'est allé au minimum sur 5 mois dans l'année. 2 mois pour le démarriage et l'ébinage et 3 mois pour l'arrachage et le chargement. Essentiellement payé à la tâche, sauf parfois pour le chargement, qui pouvait être rémunéré à la journée, ce travail était effectué par une partie des ouvriers employés régulièrement dans les fermes, aidés de leurs femmes ou des enfants, et les ouvriers saisonniers. Les premiers souvenirs qui sont évoqués tant par les ouvriers que par les employeurs est la pénibilité de ce travail. Arrivée à Méhan-Mulsien, vers 1932, une ouvrière nous dit
« Oh, puis on avait mal au rein, vous savez, oh là là, quand je suis venue, qu'est-ce que j'ai pleuré, mon Dieu, mon Dieu !» D'abord, j'avais du mal à rentrer à la maison. Hein.
Un exploitant de Nanteuil-le-Haudouin confirme ce point de vue.
Alors évidemment, c'était un travail excessivement dur. Le binage de betteraves, toute une journée penchée sur la terre avec la binette. Au départ, sur la fin de la saison, quand ils étaient entraînés, c'est comme tout, c'est une question d'entraînement, on les voyait aller très vite, mais au départ, ils peinaient énormément, c'est un travail très dur. L'arrachage était largement aussi dur.
Un ouvrier de Ré-Fosse-Martin fait une distinction entre la pénibilité des binages et celle de l'arrachage. Et il nous rappelle que les bottes de caoutchouc n'ont pas toujours existé.
C'était difficile. Parce qu'il fallait être courbé continuellement, vous étiez plié en deux, vous aviez mal au rein, on marchait à genoux, on marchait à quatre pattes. Mais, question de force, de pénibilité, non, on ne peut pas dire. Contrairement à l'arrachage. L'arrachage, il fallait de la force. On arrachait des fois qu'il y avait de la gelée blanche, hein, alors attraper les feuilles, et puis on n'était pas équipé comme aujourd'hui. Bon, vous savez, les bottes en caoutchouc, ça a commencé, je crois, le premier père en 38-39. Avant, ben, on allait dans la rosée avec des souliers, puis des guêtres en cuir. On était vraiment un cuissard quand même.
Même souvenir pour un ouvrier de Brégy.
Et pour le dégarnissage, non, bon, on avait les souliers ou du pied.
Souvent, il y avait un peu tout.
Bien souvent du pied quand
il faisait bon. Quand il faisait bon, on était bien.
Pas que. Oh ben, il y avait des fois, quand il y avait la gadoue avant, il n'y avait rien de.
D'autres souvenirs surgissent aussi de la mémoire, comme ceux des femmes qui, bien sûr, ne portaient pas de pantalon et se trempaient jusqu'au ventre dans la pluie ou la rosée. Souvenir aussi des premières bottes non doublées qui imprimaient un cercle de gerçures rouges aux mollets des femmes mal protégées par des chaussettes ou des bas de laine. Tout ceci doit être rappelé pour comprendre dans quel contexte se déroulaient les campagnes de betteraves, qualifiées de travail de bagnard par un de nos interlocuteurs. Mais essayons de nous souvenir ou de comprendre ce que l'on demandait aux ouvriers pour chaque grande période de travaux.
Sur une ligne de semis, très drue à l'époque, le démarriage consistait à placer 35 à 40 betteraves par décamètre, ce qui demandait un coup de binette tous les 25 à 28 cm pour isoler un poquet, puis l'arrachage à la main des betteraves inutiles pour n'en laisser qu'une, d'où le nom de démarriage. Le directeur du syndicat des planteurs se souvient des bagarres avec les Belges pour leur faire respecter le contrat.
Ceci dit, c'était des excellents ouvriers, même trop bons, parce qu'ils étaient très malins. Hein. Et il était très difficile avec eux de faire conserver suffisamment de pieds. Parce que comme ils savaient qu'ils allaient arracher, hein, à moins il y a de pieds arrachés, à mieux ça vaut. Il y a toujours eu des bagarres avec les Belges en ce temps-là, en leur disant, mais laissez-nous 40 pieds, on veut 40 pieds, parce que bon, on sait que pour faire un bon rendement, il faut que la population hectare soit de 80 000 pieds, hein, et non pas de 60. Bon, mais c'était la bagarre. Hein. Ils laissaient 30 pieds, 32 pieds, 33 pieds.
Ce travail, qui s'effectue lorsque les betteraves ont 4 feuilles, était distribué à chaque bineur ou équipe de bineurs de la façon suivante.
Quand on organisait les chantiers de binage de betteraves, chaque bineur, à chaque bineur était attribué un certain nombre de rangs de betteraves à biner. Hein, c'était ces enraiements, qui après étaient mesurés par le géomètre, de façon à en déterminer de façon très précise la surface. On attribuait le responsable sur le terrain, si vous voulez, attribuait à chaque bineur, au départ, un certain nombre de rangs à faire qui pouvaient être variables selon déjà la longueur de la pièce. Hein. C'est évident que si vous aviez une pièce de 100 mètres, vous donniez un enrayement de, je sais pas, de 10 rayons. Si vous aviez une pièce de 1000 mètres, vous donniez un enrayement que d'un rayon.
Lorsqu'une parcelle était démariée, le bineur ou l'équipe en reprenait une autre en fonction de sa force physique et de la surface à démarier. Un bon bineur pouvait démarier 4 hectares de betteraves. Deux types de binettes étaient utilisées, l'une pour le démariage de fin avril début mai et l'autre pour détruire les mauvaises herbes entre chaque betterave et l'arrachage des doubles qui auraient échappé au démariage en juin début juillet. Un agriculteur précise.
Il fallait des manches très courtes.
Pour avoir l'aisance
pour être tout près du sol. Pour démarrer, il y avait un manche qui faisait 40 à 50 cm maximum. Les deux mains étaient côte à côte.
Ah oui, on tenait avec les deux mains.
On tenait avec les deux mains. Et puis alors après, quand on donnait la deuxième façon uniquement pour l'herbe, alors là on binait avec des manches beaucoup plus longues.
Ces éléments nous indiquent la posture de travail requise par le démarrage. C'est-à-dire le dos cassé en deux, pour tenir à deux mains un outil de 40 cm et, sans se relever, arracher les betteraves superflues. Mais le rythme de travail que s'imposaient les ouvriers, induit par le mode de rémunération à la tâche, en aggravait encore la dureté, en particulier pour les saisonniers qui voulaient gagner le maximum pendant la campagne. Un de nos interlocuteurs se souvient du rythme de travail de ces équipes de saisonniers qui ne levait pas le nez avant d'avoir atteint le bout d'un enrayement. Si l'enrayement avait 60 mètres, 80 mètres ou 100 mètres, le chef d'équipe démarrait et il fallait que ça suive jusqu'au bout. Pas question de dire « ouf ». Non, coup de binette, coup de binette.
Ce travail monotone et pénible, effectué 12 à 14 heures par jour, demandait aussi de l'habileté.
Mais le démarrage à la main, il y avait une question de doigté de la part du démarreur. Vous aviez certains bineurs, et les femmes étaient plus douées que les hommes, avaient la main plus précise. Mais il y avait je me rappelle, surtout des femmes, certaines, quand vous passiez sur la route, vous les voyez biner, à la vitesse à laquelle elles binaient, on se disait, mais pas possible, il ne reste rien derrière. Tout y passe. C'était biné avec une précision et placé avec une précision énorme.
À la monotonie, la pénibilité et la précision, il faut aussi ajouter des éléments externes qui rendaient le travail plus ou moins difficile, comme la qualité des semis. Un chef de culture de Sennevière nous explique.
Selon que le semis avait été plus ou moins bien réussi, c'était plus ou moins facile à réaliser. Parce que dans un peuplement de bas qui se trouvait de 200 000, ça pouvait même être très épais. Hein, parce que selon la réaction du cultivateur, selon l'époque où il se met, selon les circonstances climatiques, vous pouviez avec une forêt de betteraves ou avec... si je me mettais à faire sec et puis que je se mets un petit peu trop en surface, on travaillait avec des bouts d'un mètre ou d'un mètre cinquante sans betterave.
Autrement dit, trop de betteraves signifiait que le travail n'avançait pas. Pas assez de betteraves signifiait que le contrat de laisser 35 à 40 pieds au décamètre ne pouvait être rempli. Dans les deux cas, si le prix à l'hectare n'était pas modifié, les ouvriers étaient pénalisés.
L'arrachage commençait début octobre et pouvait se poursuivre tout le mois de décembre en fonction des pluies ou des gelées qui ralentissaient le travail. Un homme pouvait arracher 12 arres par jour avec une fourche à deux dents, munie d'un manche très court. Cet outil pointu et résistant était enfoncé le long de la betterave et servait de levier pour la basculer d'une main en tenant les feuilles de l'autre, pour la tirer avec le maximum de racines. Deux lignes de betteraves étaient arrachées en même temps, puis alignées sur une seule rangée pour couper les feuilles au couperet. Puisque la terre est toujours aussi basse au printemps qu'en automne, on peut imaginer que ce travail ait été dur.
Bon, après la moisson, ça arrache les betteraves, Mais moi, j'ai eu quand même la chance que je n'ai jamais arraché. Mon mari ne voulait pas, parce que c'était dur. Hein.
À ce stade, la betterave n'a plus quatre feuilles. Elle est pesante, grasse debout. Et elle refuse parfois obstinément de s'extraire du sol gelé, et chacune d'entre elles est manipulée plusieurs fois.
Il faut voir que l'arracheur de betteraves, chaque betterave, il la maniait une à une deux fois. Une première fois pour l'extraire, une deuxième fois pour la décolleter. Et puis après, on la chargeait à la fourche.
Après le décolletage, pour faciliter le chargement, des femmes ramassaient à la main 8 rayons de betteraves qui étaient regroupés en tas sur une seule ligne. Enfin, dernière étape, les hommes chargeaient les tas sur des tombereaux très hauts.
Quand vous arriviez à une certaine époque qui craignait de la gelée, il fallait faire les tas et les cacher avec des feuilles. Parce que maintenant, au 11 novembre, les betteraves sont finies d'arracher, vont être finies d'écraser à la sucrerie. Mais avant, elles étaient à peine à la moitié. Moi, j'en ai arraché dans la neige. Hein.
Par définition, un travail à la tâche se fait au rythme choisi par chaque ouvrier ou chaque équipe, selon sa force ou sa détermination, et l'employeur n'exerce aucun contrôle sur la durée journalière du travail, d'autant plus que, comme le souligne un stagiaire, avec la distance de celui qui ne sera jamais obligé de faire ce travail. Lorsque les travaux sont à la tâche, les ouvriers ont la faculté d'allonger les heures de travail. Ils en profitent à l'occasion des binages et de l'arrachage des betteraves. Mais peut-on en conclure que ce travail n'était pas contrôlé? Ce que nous dit un chef de culture éclaire cette question.
Les conflits permanents, c'était sur la qualité du travail. On pouvait laisser double, on comptait les pieds, celui qui était surveillé, il passait. Dans certaines exploitations, il y avait un gars en permanence sur le contremaître. Il passait son temps à contrôler, à regarder s'il laissait bien 37 ou 38 ou 40 pieds au décamètre. Et s'il n'y avait pas d'herbe, s'il n'y avait pas de double, si... Parce que c'était pénalisant, les doubles dans les contrats de travail. Si vous aviez un pourcentage de double supérieur à la norme, dont je ne me souviens plus, vous aviez une pénalisation sur votre fiche de paye.
Il s'agit là du contrôle pour le démarrage et les binages, mais il existait aussi, lors de l'arrachage, pour réduire le pourcentage de betteraves cassées en terre.
Parce que à l'époque de l'arrachage, il y avait des normes aussi. Et ça, je me souviens, il ne fallait pas dépasser plus de 7% de betteraves cassées. Autrement, on était à la fois l'arracheur était pénalisé et l'employeur était pénalisé par la sucrerie.
Ces contrôles se faisaient à plusieurs niveaux, plus ou moins par les chefs des équipes de saisonniers qui souhaitaient s'assurer de futures campagnes, mais principalement par les contremaîtres, même si l'employeur passait dans les champs, pour voir l'avancement du travail, laissant au contremaître le soin du contrôle direct.
Mon patron, il était très gentil. Quand il venait nous voir dans les champs, quand on faisait les betteraves, tout ça, il venait toujours à cheval. Hein. Il était jeune, tout ça, il était sportif, oui. M. Proudhon. Ah oui, il venait voir ses ouvriers comme un patron, hein. Comme tous les patrons qui viennent vous voir. Il ne nous disait rien parce qu'on travaillait à notre compte. Mais quand c'était, mettons, à la journée, au compte du patron, ben là, vous savez, il fallait se remuer.
Wiatrzyk cija, krakowskiej natury, kto mi wejdzie w drogę, ja na niego z góry. Krakowiaczek cija, jest na każdym kroku, po dwie panny wiszą u mojego boku. Krakowiaczek cija, jest na każdym kroku, po dwie panny wiszą u mojego boku.
Dernière étape de la campagne de betterave. Quelques hommes chargeaient les tas sur les tombereaux très hauts et plus tard des GMC. Ce travail se faisait à l'aide de fourches à betteraves à quatre dents. En 1950, dans une ferme du Valois, trois ouvriers pouvaient charger 75 hectares de betteraves ayant un rendement de 25 à 35 tonnes à l'hectare, ce qui fait environ, au total, 2250 tonnes et 750 tonnes par homme. Ce problème, qui aurait pu être proposé aux élèves du primaire, ne permet pas d'évaluer le nombre de coups de fourche nécessaires à l'exécution de cette tâche, faute de savoir le poids de la fourche et de son contenu.
Et enfin, les betteraves à sucre joignaient les sucreries, par divers moyens. Un agriculteur du Mulcien se souvient de cette époque.
Le chantier betterave, d'avant, tel que je me le souviens, moi, où j'ai commencé à travailler quand j'étais gamin, en piquant deux bœufs et un tombereau, il n'y avait pas beaucoup de chantiers avec un silo de betterave au bout de la pièce. On chargeait, puis ça partait directement à la râperie ou à la bascule. Une bascule où on recevait, donc on pesait les betteraves pour vous créditer, si vous voulez, de votre apport. Et on débasculait ça avec les tombons sur une grande aire, et puis c'était rechargé dans des chemins de fer. Les sucreries avaient presque tous leur chemin de fer.
Les aires de réception, les bascules sont encore aujourd'hui des noms toponymiques comme la bascule du Colimaçon au carrefour de la RN2 et de la route d'Ormois-le-Davien. Dans les râperies et les sucreries, d'autres saisonniers belges, polonais ou tchèques prenaient le relais pour charger et décharger les tombereaux et les wagons.
Un ouvrier de Brégy évoque un paysage que nous ne verrons plus. Celui du Valois et du Mulcien sillonné par des trains qui n'existent plus, transportant les betteraves vers la sucrerie de Vaucienne.
Ici, il y avait la gare.
Ici, on a fait, il y avait le train qui venait chercher les betteraves à Brégy. La voie normale venait de Brégy, elle allait jusque Silly-le-Long. Puis de Silly-le-Lyon, ils ramenaient toutes les betteraves à Vaucienne. Ils les emmenaient à Vaucienne.
C'était le même bras que le rail officiel.
Oui, oui, oui.
Cette voie ferrée créée vers 1910 rejoignait la ligne Paris-Soissons au Plessis-Belleville. La sucrerie de Vaucienne, contrairement à celle de Villenoix en Seine-et-Marne, recevait directement les betteraves qui ne passaient pas par les râperies.
Après, vous aviez toutes les râperies. Vous aviez des râperies pour Villenoix. Vous aviez il y en a eu une à Brégy, il y en a eu une à Chèvreville, il y en avait une à Antilly. Oh, il y en avait une à Marcilly, il y en avait une à Ouasserie, tout ça, ils renvoyaient le jus à Villenoix.
L'acheminement de ces jus se faisait à l'aide de pompes dans un réseau de canalisation souterraine situé en bordure des routes vers la sucrerie. C'était L'homme et la betterave à sucre. 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulcien. Aujourd'hui, qu'est-ce que faire les betteraves ? Réalisation RVM.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois, une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.